d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Ce soir, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi animée par l'équipe de la 4ème dimension, comme tous les 4e vendredis du mois, avec pour présenter l'émission Laurent et Damien et Claude à la technique. Dans l'émission de ce soir, nous allons parler inégalité à l'occasion de la sortie du nouvel ouvrage de la Fondation Copernic s'intitulant « Vers une société plus juste, manifeste pour un plafonnement des revenus et des patrimoines ». Ouvrage qui est donc sorti aux éditions Les Liens qui Libèrent. Je vais citer les co-rédacteurs de l'ouvrage, donc Pierre Poncialdi, Didier Gelot, Christiane Marty, Philippe Richard. Et pour parler de cet ouvrage et inégalité, nous recevons ce soir Didier Gelot, membre de la Fondation Copernic. Bonsoir Didier.
Eh bien bonsoir.
Bonsoir Didier, donc ravi de t'accueillir dans ce studio.
Je termine mon introduction. Non, mais c'est juste pour vous dire que si vous avez des questions, et je sais que vous êtes nombreux à avoir des questions, vous pouvez nous appeler au 01 40 05 06 10 et vous pouvez retrouver l'émission et la réécouter mardi prochain à 7h30 sur la radio Fréquence Paris Pluriel ou la télécharger sur le site internet de Mode d'emploi www.mode-d-emploi.net.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est vrai que j'étais un peu pressé Didier de t'accueillir, mais c'est parce que tu as plein de choses intéressantes à nous dire ce soir. Donc peut-être pour commencer, tu peux nous présenter la Fondation Copernic et puis peut-être aussi les auteurs de l'ouvrage et tu peux te présenter bien
D'accord,
sûr également.
D'accord, écoute, effectivement, la Fondation Copernic, ça fait un petit moment qu'elle existe, depuis la fin des années 80 globalement, et elle a pour fonction essentiellement d'essayer de produire de qu'on appelle, il faut bien trouver une manière d'exprimer ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la contre-expertise. L'idée, c'est d'essayer de produire des documents, on appelle ça des notes, qui permettent, sur des sujets très variés, d'essayer de présenter des alternatives aux propositions et à la mise en œuvre des politiques néolibérales qui maintenant sont malheureusement très, très, très présentes dans les sociétés occidentales et ailleurs. Et donc l'idée, voilà, c'est de produire en général à plusieurs, et enfin, essentiellement d'ailleurs à plusieurs, l'idée c'est de mettre ensemble des représentants d'associations, des syndicalistes, des chercheurs, pour produire voilà, une information un peu originale. Et donc du coup c'est un petit peu la composition, puisque tu m'interrogeais sur qui étaient les auteurs de cet ouvrage qui s'appelle donc « Vers une société juste ». Une société plus juste, manifeste pour un plafonnement des revenus et des patrimoines. Les auteurs sont représentatifs un petit peu de ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des gens qui sont des chercheurs, des spécialistes de certains domaines, des inégalités, en particulier, c'est normal, c'est le sujet de l'ouvrage. Il n'y a pas syndicaliste en l'occurrence là, mais voilà, c'est un petit peu l'idée de relier différentes compétences pour produire quelque chose d'un petit peu original. Voilà.
D'accord, merci pour cette présentation. Comme tu cites l'ouvrage, on va peut-être commencer par cette première question un peu bateau, mais pourquoi finalement ce manifeste et comment est née l'idée de cet ouvrage ?
Eh bien, l'idée est ancienne en réalité à la Fondation Copernic et elle est ancienne, je crois, un petit peu de manière plus générale. C'est vrai qu'on est parti de l'idée qu'on avait pas mal de documentation sur la question des inégalités, souvent traitée d'ailleurs du point de vue des inégalités économiques et sociales. Et par contre... On avait beaucoup moins de choses sur, mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour voilà, contrer ces inégalités, pour essayer voilà, de redonner du pouvoir d'achat, moins d'inégalités en tous les cas, à certaines catégories de la population. On avait cette idée qu'il y avait quelque part besoin de réfléchir à ce que serait un revenu et un patrimoine maximum, sans que jusqu'à maintenant on ait vraiment réussi à trouver la manière d'entrer dans le sujet. Et on en parlera bien évidemment après, mais c'est des travaux qui ont été menés hors de la Fondation Copernic, mais qu'on a repris, je dirais, à notre compte, et qui ont permis un petit peu d'essayer de faire des propositions concrètes sur ce que serait un travail de lutte contre les inégalités. Mais je disais
tout
à l'heure,
qui avait travaillé dessus, par exemple?
Bah, justement, on verra hein, si vous le voulez bien un petit
D'accord.
peu quand on sera un petit peu dans le sujet. Mais il y avait eu un travail qui a été fait par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, qui avait montré quel était le revenu minimum décent, c'est-à-dire en gros avec quoi monétairement et en termes, mais il faudra qu'on rentre plus dans le détail.
Oui, oui,
mais en gros, combien fallait-il pour pouvoir vivre un peu dignement, disons, dans la société actuelle? Et c'est en partant de ce travail qui avait été fait par l'Observatoire de la pauvreté qu'on est parti sur l'idée de, mais finalement, s'il y a des riches et s'il y a des pauvres, il y a aussi des riches. Et comment pouvoir essayer de faire le lien entre ces deux pôles, finalement, des inégalités. Et je voudrais juste dire aussi en introduction qu'on a essayé de montrer que la lutte contre les inégalités, la démesure en matière d'inégalités, cette démesure, elle était évidemment fondamentalement économique et sociale, mais c'était une démesure qui dépassait largement ses champs et qui était aussi une démesure en termes écologique. C'est-à-dire prélèvement sur la nature, qui était une démesure et
mais
des inégalités.
Très présent dans le livre.
Voilà, très présent dans cet ouvrage, mais aussi des démesures et un accaparement des richesses et des inégalités par rapport aux médias, évidemment, l'accaparement des médias par certaines classes, l'accaparement du politique, et qu'en s'attaquant aux inégalités, ce qu'on voulait, c'est essayer de montrer qu'en s'attaquant aux inégalités économiques et sociales, on s'attaquait aussi aux inégalités et en matière de d'accaparement des médias ou de pouvoir politique. Okay. Voilà, c'est un petit peu ça le fondement finalement initial du travail.
Ok. Alors peut-être justement avant de rentrer dans le détail notamment des méthodes et des chapitres, peut-être encore en propos introductifs, parce qu'on parle beaucoup d'inégalités, peut-être à l'échelle nationale en France, quels sont en gros c'est quoi les chiffres, c'est quoi les tendances, parce que tu disais en introduction qu'il y avait énormément de travaux dessus, de réflexions faites, mais finalement on s'aperçoit que les inégalités sont toujours de plus en plus importantes.
Ouais. Alors c'est vrai que comme on l'a dit, hein, c'est un manifeste, j'essaierai d'y revenir après. L'idée, c'était pas de concurrencer des travaux largement connus aujourd'hui. Bon, on cite évidemment assez facilement dans ce cas-là les travaux de Thomas Piketty, hein, qui sont aujourd'hui très poussé sur ces questions d'inégalité au niveau mondial, mais aussi en France. Mais on a quand même, évidemment, dans l'ouvrage, repris quelques données pour pouvoir un peu situer la question. Même si c'est pas le cœur du travail, c'est pas de documenter la question des inégalités. C'est plutôt d'essayer de montrer comment on peut plafonner les revenus des patrimoines. Mais si on veut, effectivement, quand même donner quelques chiffres, d'abord dire peut-être que les inégalités au niveau mondial, elles ne font que croître. Bon, ça, c'est, je pense pas que ça étonnera beaucoup les auditeurs. Et évidemment, dans certains pays, c'est encore plus fort que dans d'autres. On voit bien aux États-Unis en particulier, mais ça, c'est pas simplement dû à l'actuel gouvernement Trump, à la présidence Trump. C'est vrai que depuis de nombreuses années maintenant, les inégalités sont en train d'exploser aux États-Unis, en Angleterre, enfin dans les pays où on est vraiment dans une tradition néolibérale très forte. En France, la situation est peut-être un petit peu différente. On n'est pas dans une situation où on a une explosion des inégalités, mais ce qu'on observe, néanmoins, c'est un peu ce qui s'observe au niveau mondial, c'est qu'on a une très forte différence entre les très riches et les très pauvres. Et c'est vrai que là, par contre, dans le très haut de la distribution, Là, les inégalités et en particulier l'enrichissement des très riches continuent à se pauvrir. Mais peut-être pour donner quelques chiffres, en termes de revenus, eh bien, aujourd'hui, à peu près 10% de la population possède un quart des revenus. Mmh. Possède un quart des revenus. Et entre 2003 et donc sur les 10 dernières années, disons globalement, eh bien, les 10% les moins riches ont vu leur revenu s'accroître de 2%, alors que des 10% les plus riches ont vu leur revenu s'accroître de 20%, 10 fois plus, quoi.
Donc, d'accord.
Bon, on est quand même, évidemment, dans des choses tout à fait anecdotiques, hein. Et du point de vue des inégalités de patrimoine, c'est peut-être là encore plus flagrant. Quelques chiffres, puis j'arrêterai là, mais en 1980, 10% de la population possédait 50% du patrimoine national. Aujourd'hui, ces mêmes 10%, on possède à peu près 60%, un peu moins 60%. D'accord. Donc on voit bien que là aussi, ça progresse. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment dans le haut de la distribution des revenus et patrimoine que les choses sont marquées. Et aujourd'hui, 1% de la population possède un quart des patrimoines.
D'accord. Donc, 1%, un quart du patrimoine.
Donc c'est impressionnant. Quelque chose quand même qui est très, 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 très fort. Mmh. Et c'est un peu ça qu'on voulait essayer de questionner, quoi.
C'est vrai que même au niveau mondial, on cite souvent chaque année un certain nombre de milliardaires qui posséderaient la moitié des richesses du globe. Et aujourd'hui, c'est moins de 100 personnes.
C'est essentiellement les caractéristiques de l'évolution des inégalités. C'est qu'elles sont extrêmement concentrées tout en haut des revenus et des patrimoines, alors que tout en bas, eh bien, les gens continuent à vivre dans des situations particulièrement difficiles.
Et tu as commencé à en parler, mais peut-être revenir un peu là-dessus. Pourquoi aujourd'hui on doit lutter contre les inégalités C'est-à-dire que, enfin, dans ton propos là, ce qui était intéressant, je veux bien que tu développes un petit peu, c'est que finalement on n'est pas dans quelque chose de punitif, c'est-à-dire de priver les riches de leur richesse. Mais c'est parce que ça doit apporter quelque chose à la société.
Tout à fait. C'est-à-dire que il y a des travaux aussi qui ont été menés sur ces questions, mais on voit bien que la concentration des richesses dans quelques mains, elle n'a pas que seule conséquence le fait qu'il y a des très riches et des très pauvres. Il y a aussi un impact très très important. Par exemple, on le voit, c'est aujourd'hui vrai que c'est flagrant, par exemple, du point de vue de qui concentre le pouvoir politique. Il y a des travaux qui ont été menés là-dessus par certains auteurs qui montrent que, par exemple, la campagne Macron, elle a été menée essentiellement par le biais de soutien financier de la part de personnes particulièrement riches. Mais c'est vrai aussi pendant la concentration des médias. On voit que les médias appartiennent à une minorité de gens qui concentrent la propriété de quasiment tous les médias. C'est vrai du Monde, c'est vrai de Libération, enfin c'est vrai vraiment des grands médias.
On le cite dans le bouquin,
absolument. Et puis il y a aussi un élément qui est peut-être souvent moins cité, mais c'est que la concentration des revenus, la concentration des patrimoines a un impact sur l'environnement, puisqu'on sait maintenant par les travaux qui sont relativement récents néanmoins, hein, que les plus riches ont un impact environnemental particulièrement important. Alors il suffit d'illustrer par le fait qu'évidemment avoir un avion, avoir un yacht, ça consomme et ça pollue. Et l'impact environnemental des très hauts revenus, il est tout à fait essentiel.
Non.
On va peut-être clore cette introduction, et puis dans la partie suivante de l'émission, on abordera vraiment les questions sur lesquelles vous avez travaillé en profondeur sur le plafonnement des revenus, puis le plafonnement des patrimoines. Et on va faire une première pause musicale dans cette émission.
But the last time you will kiss my lips, now shut up.
Bonsoir à toutes et à toutes. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Nous venons d'écouter The Ting Tings, Shut Up and Let Me Go. Et on va avoir une citation de notre ex-président. Ah, est-ce que ça va venir tout de suite ?
Il est timide, François.
J'ai considéré, et j'en fais ici l'annonce, que pour au-dessus de 1 million d'euros par mois, eh bien, le taux d'imposition devrait être de 75%. Parce que ce n'est pas possible d'avoir ces niveaux de revenus. Juste une rectification, hein, c'est 1 million d'euros par an.
Merci François pour ce passage. Alors peut-être Didier, du coup on va quitter un peu ces propos introductifs pour entrer un peu dans le vif du sujet. Donc deux grandes parties, plafonnement des revenus, plafonnement du patrimoine. Donc vous avez travaillé sur une méthode originale pour la cité, donc qui part des besoins. Alors sur le plafonnement des revenus, peut-être juste finalement nous raconter un peu l'histoire de ces plafonnements des revenus, parce que finalement c'est pas une idée nouvelle.
Oui, alors d'abord effectivement c'est bien de le souligner en introduction, c'est que c'est pas une idée nouvelle. Paradoxalement, dans des pays qui pourtant aujourd'hui, je disais tout à l'heure, en particulier les États-Unis, il faut savoir que à partir du New Deal, donc Roosevelt, jusqu'à la contre-révolution néolibérale, donc avec Reagan, les États-Unis connaissaient des taux d'imposition, donc c'est-à-dire finalement un impôt sur les revenus, qui pouvait être extrêmement élevé pour les plus hauts revenus, puisqu'il a été jusqu'à 80 voire 90% des très très hauts revenus. Donc on voit que c'est pas quelque chose. L'idée de dire on peut plafonner les revenus et les très hauts revenus, c'est pas une idée, je dirais, sortie comme ça de la tête de radicaux complètement fous, mais c'est bien une possibilité qui a existé. Et une fois de plus, dans un pays qui pourtant n'est pas connu pour être un pays particulièrement de gauche depuis longtemps. Et donc c'est un petit peu ça qu'on a voulu essayer d'expérimenter dans cet ouvrage. Et on est parti, tu l'as dit, hein, on est parti d'une idée un petit peu originale, enfin en tous les cas c'est ce qui nous semble. C'est finalement, en fin de compte, si on pourrait dire que ce bouquin, il part de l'idée que jusqu'à maintenant, on n'avait pas véritablement défini ce qu'était qu'être riche. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est vrai que l'ensemble des travaux qui parlent de richesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on parle des 1% les plus riches, des 3% les plus riches, des 0,1% les plus riches. Mais on pourrait tout à fait se demander, mais pourquoi 3? Pourquoi 1? Pourquoi 0,1? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'on est riche si on est parmi les personnes qui se situent dans le haut de la distribution des revenus, 1%, 3%, 0,1%? Il n'y a pas de légitimité réelle à parler de richesse dans ces termes. Bien évidemment, ce sont des ultra-riches. Mmh. Mais pourquoi 1% et pourquoi pas 3 et pourquoi 0,1 et pourquoi pas 1? Donc on voit bien qu'il y a un vrai souci, d'abord de définir ce que c'est qu'être riche. Mmh. Et c'est un peu ça qu'on a voulu faire dans un premier temps, et il me semble que c'est un peu ça l'originalité de notre approche. C'est de partir du fait que, finalement, on a défini dans cet ouvrage, on a défini un riche comme, finalement, ça peut paraître un peu, finalement, assez simple, hein, mais riche celui qui empêche les autres de pouvoir, finalement, vivre décemment. Et c'est un peu ça notre idée. Mmh. On est riche à partir du moment où on fait que d'autres, ne sont pas forcément pauvres, mais en tous les cas ont une vie qui n'est pas décente. Voilà. Mmh. Et c'est à partir de cette idée-là qu'on a utilisé un travail, je le disais en introduction, un travail qui a été réalisé par l'Observatoire de la pauvreté et qui fixait ça par des manières elles-mêmes assez originales, donc qui fixait le revenu minimum décent, pour donner un chiffre, hein, à peu près à 1 500 € par mois. C'est-à-dire qu'en gros, le travail qui a été mené par l'Observatoire, qui a consisté à réunir des gens et à partir des besoins des personnes. Mmh. Et c'est ça aussi. Hein,
C'est quoi les besoins?
Les besoins, ben, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, parce que là aussi, on dit les pauvres, qui est pauvre? Mmh. Ben, aujourd'hui, il y a un
seuil de pauvreté, oui.
Voilà, il y a un seuil de pauvreté, mais il est défini de manière tout à fait arbitraire.
Oui.
C'est 60% du revenu médian de la population. Mais ça pourrait être 50, ça pourrait être 40. Là aussi, c'est une convention. Et quand on dit sont riches les gens qui sont au-dessus de, qui parmi les 1% les plus riches, c'est une convention. On aurait pu prendre d'autres conventions. Donc, ce qu'on essaie de montrer dans ce travail, c'est qu'il y a une autre manière d'aborder ces questions de richesse et de pauvreté, qui part des besoins des personnes, comme ça a été fait par l'Observatoire, et qui consiste à dire qu'est-ce qu'il faut pour finalement
vivre décemment.
Mmh. Et il faut évidemment pouvoir se loger, se nourrir, se vêtir. Mmh. Ça, c'est une évidence. Mais aussi, il faut pouvoir avoir une vie culturelle, avoir une vie associative, avoir une vie amicale, rencontrer des gens. Et ça, il faut se déplacer. Donc peut-être il y a une question aussi d'avoir un véhicule ou pas. Mmh. Bon, tout ça, c'est... Donc on part finalement, quelque part aussi, on pourrait dire, hein, des travaux d'Amartya Sen, hein, qui montrent que, voilà, c'est dans les capacités, hein, ce qu'on appelle les capacités des personnes à pouvoir... être présent dans la société, que se situe la notion de décence.
Moi, j'ai peut-être juste une question, je pense qu'un peu naïve, mais du coup, le coût des besoins, il est quand même différent en fonction de là où on habite.
Effectivement, c'est vrai.
Le travail qui a été fait par
l'Observatoire et qu'on a repris pour ensuite, justement, et je vais venir pour construire ce que serait un seuil de richesse. Eh bien, évidemment, là, c'était c'était pour des villes moyennes. Mm-hmm. Mais l'Observatoire, là, dernièrement, a poursuivi ses travaux pour des villes de beaucoup plus petites en campagne et pour Paris. Donc, on voit que ce travail peut être fait sur différents territoires.
Alors, moi, j'ai une question, puisque donc, tu parlais de seuil de richesse, comment on le définit. Et après, tu nous as parlé donc de revenu minimum décent, donc de 1500 euros pour une personne seule active. Du coup, est-ce qu'on est riche au-delà de ce minimum décent ou enfin
bah, voilà, c'est exactement tout ça le travail. Non, bien sûr que non, évidemment.
Ouais.
Tout le travail, ça a été d'essayer de construire ce seuil de richesse en fonction de ce seuil de décence, de revenu décent. Hein. Et alors, je peux pas rentrer dans la technique parce qu'évidemment ça serait un petit peu compliqué et surtout pas très amusant. Mais en gros, on prend les revenus des plus riches et on les affecte à la population qui n'a pas ne dispose pas en France de ce revenu minimum décent. Donc qui ne dispose pas de ces 1500 euros.
D'accord.
Et on sait qu'en France, c'est à peu près 30% de la population. 30% de la population n'atteint pas le seuil égal à 1500 euros.
Mais l'idée, c'est d'avoir un revenu universel ou...
C'est pas un revenu universel, puisque là, l'idée, justement, au contraire, c'est de retirer aux riches pour donner aux pauvres.
D'accord. Hein,
c'est pas la même idée dans l'universel. C'est l'idée que... Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a procédé. Et globalement, je vais aller très vite, hein, parce que sinon, ça serait un peu rébarbatif. Mais globalement, on a situé le seuil de richesse. On situe par cette méthode, c'est-à-dire... Je prends aux plus riches et je donne à la part de la population qui n'atteint pas le seuil de revenu minimum décent. Si j'en ai pas assez, ben je prends à la tranche inférieure parmi les plus riches, et ainsi de suite. Et globalement, on arrive à un seuil de richesse qui se situerait à peu près autour de 7000 euros mensuels par mois. Alors on peut dire c'est pas finalement énorme, hein, c'est pas finalement énorme. Ben si, c'est beaucoup en réalité, parce que si on regarde les données dont on dispose par l'INSEE, eh bien on a à peu près 3% de la population qui dispose d'un revenu mensuel supérieur à 7000 euros. Donc on voit bien qu'on retrouve d'ailleurs, ce qui est assez amusant d'ailleurs, hein, c'est qu'on retrouve les fameux 2-3%, voilà. On les retrouve, mais on les retrouve d'une autre manière. On les retrouve pas en disant c'est 3% parce que bah voilà, c'est comme ça, c'est autrement. On les retrouve parce que cette capacité à taxer les revenus les plus élevés permet à d'autres de pouvoir atteindre un revenu minimum décent.
Et quand tu dis dans la méthode, quand tu dis prendre du coup l'argent aux
riches. Bien évidemment, non,
ça veut dire,
par le biais
ça veut dire qu'au-dessus de 7000 euros, c'est 100%.
C'est 100%.
Vous, c'est 100%, c'est pas 80% c'est comme Reagan. Okay.
Mais alors, j'aimerais, effectivement, ça me permet quand même d'expliquer aussi quelque chose qui est très présent dans le bouquin. C'est que atteindre le revenu minimum décent, on peut l'atteindre effectivement par une imposition des plus riches, donc c'est bien l'idée du plafonnement des revenus, mais aussi atteindre ce niveau de revenu minimum décent, on peut l'atteindre aussi par une amélioration des services publics. C'est-à-dire que c'est un besoin de se déplacer, évidemment, c'est un besoin de se déplacer. Mais peut-être, alors là, pour le coup, on rejoint les questions écologiques, peut-être que pour se déplacer, n'a-t-on pas forcément besoin de conduire un 4x4 diesel. On peut peut-être, tout simplement, demander une amélioration des services publics de transport pour faire que le besoin de transport se traduise par le fait de prendre des transports en commun. Voilà, ça peut être une manière aussi d'atteindre ce revenu.
D'ailleurs, c'est un petit pays et en plus riche, mais j'ai vu que Luxembourg avait
mis en place effectivement la gratuité des transports. Voilà, c'est exactement ça. Permettre à chacun de pouvoir se déplacer peut s'atteindre par le fait de mettre la gratuité des transports.
Ce qu'a fait Dunkerque, ville ouvrière.
Voilà, il y a des villes qui le font absolument en France. Donc voilà, ça s'inscrit aussi dans cette logique. Il n'est pas simplement qu'une logique de redistribution par le biais de l'impôt, mais qui est aussi une logique de redistribution, permettre aux besoins d'être satisfaits par une politique publique, par des services publics tout à fait adaptés. Et je dirais même aussi, on le dit dans l'ouvrage, une autre manière, bien évidemment, c'est avant même l'impôt, c'est de combattre les inégalités à la source. C'est-à-dire qu'avant tout, évidemment, on pense à l'augmentation des salaires. Évidemment, on cite d'ailleurs dans le bouquin que pour pouvoir atteindre un niveau de revenu minimum décent à hauteur de 2 500 euros, eh bien, il faudrait globalement augmenter le SMIC de 20 à 30%. Voilà. Et ça, on retrouve d'ailleurs, c'est intéressant, parce que là aussi, tout ça se croise. On retrouve à peu près des revendications de certains syndicats qui demandent un SMIC à 1 500 euros. Donc, vous voyez, tout ça est relativement lié. L'intérêt de la démarche, c'est qu'elle essaie un petit peu de globaliser tout ça pour montrer qu'il y a une cohérence, finalement, entre...
Ce qui est rassurant en termes de chiffres. Parce que, du coup,
c'est ce qu'on a beaucoup... Ce qu'on a essayé de dire aussi. On n'est pas en train d'écrire un brûlot. On est en train d'écrire quelque chose qui, finalement, rend simplement rationnel des démarches qui étaient un petit peu éparses. Et on essaie de construire... C'est pour ça qu'on l'appelait manifeste. Pour essayer de montrer qu'il y a une cohérence dans tout ça... Et avec une originalité propre à l'ouvrage. Mais bon, finalement, ce qu'on voulait dans cet ouvrage, c'est pour ça que c'est un ouvrage relativement petit, on ne l'a pas dit, c'est pas 500 pages, c'est relativement. C'est un ouvrage de petite taille.
Oui, c'est très accessible.
Voilà, c'est un ouvrage accessible de ce point de vue, parce que ce qu'on veut, c'est mettre le débat sur la table. On ne veut pas répondre à toutes les questions. Et on verra tout à l'heure, peut-être, quand on parlera des patrimoines, qu'on est un petit peu moins. Les propositions sont moins développées parce que justement dans la société aujourd'hui ce débat est moins présent. Il est présent sur les revenus. J'ai cité tout à l'heure Thomas Piketty dans son dernier ouvrage. Thomas Piketty fait des propositions en matière de plafonnement des revenus du patrimoine, mais c'est des choses qui aujourd'hui se discutent beaucoup plus. Elles étaient nettement moins discutées il y a peut-être 5 ou 10 ans de ça. Aujourd'hui on voit bien que c'est peut-être pas non plus un hasard si Copernic s'est emparé de cette affaire-là, c'est que ce sont des choses qui aujourd'hui apparaissent quelque part comme méritant d'être discuté. Quoi.
Oui, et puis les services publics se dégradent, et dans le même temps, les richesses n'ont jamais été aussi concentrées. Donc
absolument.
Par rapport à il y a 10 ans, c'est vrai que la situation
absolument.
A changé
absolument.
Aussi.
Absolument.
Alors moi, j'avais plusieurs questions. La première vient de m'échapper. Et c'est un constat. Donc là, on a entendu tout à l'heure François Hollande qui disait 75% d'imposition au-delà de 1 million d'euros. Là, quand vous parlez de 7 000 euros mensuels, donc 7 000 fois 12, ça nous fait du 84 000 euros par an. Donc là, on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur.
Oui, mais une fois de plus, j'insiste sur le fait que quand on prend ces chiffres, on voit en réalité que du point de vue des rémunérations, du point de vue des revenus, on n'est pas en train de voler dans la poche de la classe moyenne supérieure. Hein. On est sur les 3% de la population la plus riche. Donc on est vraiment pas du tout en train de faire une proposition, de couper les têtes. Hein. C'est absolument pas ça la réalité. Au-dessus de 7000 euros par mois, on a que 3% de la population, on a que 3% des salaires. Donc on voit bien que c'est pas du tout quelque chose de faramineux. Hein,
ouais, réalité, bien sûr. Hein.
Et alors les propositions de Hollande, évidemment, elles se situent largement au-dessus, mais bon, on voit bien que ça n'a pas vraiment grand sens. Hein.
Alors, mais du coup, on se rappelle quand même qu'à l'époque, ça avait quand même fortement débattu avec plusieurs arguments. Le premier, qui est la fuite de nos cadres les plus, on va dire, les plus intelligents vers d'autres pays où la fiscalité serait moins chère.
Absolument.
Serait moins.
Alors,
élevée.
C'est vrai que là, on rentre dans le sujet de la faisabilité. On n'a pas encore parlé des patrimoines, mais on a peut-être encore plus cette question du point de vue des patrimoines. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est un des débats classiques. C'est si vous taxez les patrimoines, évidemment, les gens vont externaliser, vont quitter le pays pour mettre leur patrimoine à l'étranger. Alors c'est pas une fausse question. Hein. Simplement nous on essaye d'abord de dire que c'est quand même lorsque ça a été fait, on n'a jamais vu d'expatriation comme ça massive des capitaux. C'est historiquement ça s'est pas vu, donc c'est quand même une première indication.
Enfin des personnes quoi qui iraient travailler ailleurs.
Voilà. Mais alors, sur les patrimoines en particulier, ce qu'on propose nous, c'est une taxation des patrimoines sur la base de la nationalité.
Oui.
Ce qui veut dire que concrètement, si un Français qui partirait à l'étranger pour se domicilier resterait fiscalement
comme aux États-Unis en fait.
Voilà, exactement comme aux États-Unis, c'est la même situation
qui n'est pas un pays gauchiste comme
voilà,
tu l'as dit.
Qui n'est pas un pays particulièrement connu.
Alors, on va revenir sur le patrimoine après, mais peut-être là on était vraiment sur cette question de revenus. Donc a priori,
oui, mais une fois de plus, je vais peut-être paraître un peu obsessionnel, mais c'est-à-dire, ça touche peu de monde.
Ça touche peu de monde.
Ça touche quelques 1%, 2%, 3% au maximum de la population. Et vous voyez bien que c'est pas vrai que parce que on taxerait certains revenus, tous les 3% partiraient à l'étranger. Bien évidemment que non. C'est une question, mais nous, on c'est vrai, on n'y répond pas. Hein. On n'y répond pas, mais je l'ai dit pourquoi. Parce que c'est un manifeste, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de mettre la question
sur
la table. Et après, à l'ensemble de la société civile, de s'entendre sur les modalités concrètes de la mise en œuvre de cette proposition. La question, c'est faire rentrer dans les têtes que, un, c'est possible. Deux, il y a des méthodes pour réfléchir à ces questions de plafonnement. Et donc, à partir de là, après, comment on les rend concrètes? Eh ben, c'est pas forcément à nous, Fondation Copernic, de le dire, bien évidemment. C'est un sujet central, c'est un sujet social qui doit être débattu, largement, et pas simplement par quelques intellectuels qui se sont penchés sur leur feuille de papier dans un bureau, hein, évidemment. Hein.
Mais j'avais une question vraiment pratico-pratique sur les entreprises qui, donc imaginons aujourd'hui, versent des salaires à une personne à 10 000 euros. Donc cette personne touche 10 000 euros et donc là l'idée c'est de prélever 100% au-delà de 7 000 euros.
Ça va tout de suite, mais la logique qui plafonne un revenu fait qu'évidemment... Si c'était mis en place, il n'y aurait plus aucun intérêt
à verser des revenus.
Bien évidemment, puisque ces revenus, de toute façon, seraient plafonnés et l'excédent partirait dans les caisses de l'État. Donc, il n'y aurait pas. Donc, on peut penser à ce moment-là qu'il y aurait une vertu qui serait que, du coup, l'entreprise aurait plutôt intérêt à mieux payer ses salariés, de toute façon, puisque ça servirait à pas grand-chose de payer extrêmement bien les hauts cadres, de toute façon, puisqu'ils seraient imposés. Donc, y a aussi cette vertu-là, c'est une vertu de redistribution avant même la création des inégalités salariales.
Bon, c'est assez enthousiasmant, en tout cas, cette idée. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ce que ça apporte aussi à la société. On va faire une deuxième pause musicale et on va écouter Blay Ambolé Ketan. Bonsoir à toutes et à tous. Nous venons d'écouter Blaye Embolé Kétan. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et nous parlons d'inégalité ce soir et de plafonnement des revenus et des patrimoines.
Alors avec Didier Gélot en invité de la Fondation Copernic, alors peut-être que du coup l'ouvrage dont on parle depuis tout à l'heure est composé en deux parties, donc on a bien détaillé la partie revenus. Il y a le plafonnement des patrimoines qui apparaît aussi dans l'ouvrage. Alors peut-être juste avant de parler de méthode, tu l'as dit toi-même qu'elle était un peu moins aboutie que la partie revenus. Juste pour les auditeurs, qu'est-ce que le patrimoine finalement, parce que vous en citez plusieurs.
Oui, effectivement, c'est un petit peu la difficulté qu'on peut rencontrer lorsqu'on veut s'intéresser à la question des patrimoines. Un revenu, c'est assez facile à définir. Hein, c'est globalement, d'autant plus que bon, pour quand même la grande masse de la population, un revenu, c'est un salaire. Globalement, aujourd'hui, une bonne partie de la population est salariée. Il y a des revenus qui sont des revenus, évidemment, pour les travailleurs indépendants ou des revenus du patrimoine, justement. Hein, on y reviendra tout de suite. Mais globalement, on parle de salaire. Donc, c'est pas très, très compliqué de définir ce que c'est qu'un revenu. Ça l'est beaucoup plus de définir ce qu'est un patrimoine et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire. Alors, on n'a pas innové, là, pour le coup. Hein, on a simplement repris un peu les définitions existantes, mais c'est un peu dans leur articulation de ces différents types de revenus qu'on a essayé de construire, là aussi, encore une fois de plus, une méthode permettant d'avancer dans ce que serait un plafonnement des patrimoines. Et en gros, si on prend la littérature existante, enfin ce qu'on sait aujourd'hui sur ce que les économistes finalement nous disent sur les patrimoines, on a trois types de patrimoines assez différents. On a le patrimoine domestique. C'est quoi le patrimoine domestique? Eh bien, c'est simplement, moi j'ai ma voiture,
mon logement.
J'ai mon logement, ouais. Absolument. Le patrimoine domestique, d'ailleurs, on donne les chiffres dans le bouquin. 70% des patrimoines des Français, c'est son logement, quoi. C'est le fait qu'on est propriétaire de son logement. Ça, c'est le patrimoine domestique. Alors, il y a un autre patrimoine qu'on appelle patrimoine professionnel, et on voit bien à quoi on fait référence. C'est évidemment tout ce qui est lié aux travailleurs indépendants, aux artisans, voilà. Et puis, il y a un troisième type de patrimoine qui est un petit peu plus compliqué. C'est un patrimoine dit de rapport. Et là, c'est les actions que je peux avoir, en ma possession. Et c'est un petit peu sur la base de ces trois types de patrimoine, qu'on a essayé de voir s'il y avait matière à comment est-ce qu'on peut discuter le plafonnement de ces types de patrimoine. Alors bien évidemment, ce qu'on dit d'emblée, c'est qu'il ne s'agit pas de taxer les patrimoines domestiques. On ne va pas arriver pour dire on va socialiser le petit pavillon en banlieue. C'est évidemment
le propriétaire de l'île de Ré, là, voilà, qu'on a beaucoup cité.
Tu as raison, c'est vrai qu'au sein des patrimoines domestiques, il y a aussi des patrimoines qui sont des patrimoines somptuaires, parce que dans le patrimoine domestique, c'est pas nous qui le disons, mais c'est la comptabilité nationale, il y a aussi le yacht. Bon. Oui. Là, effectivement, la question peut se poser de savoir s'il est légitime socialement de disposer d'un yacht ou d'un avion personnel, comme certains en ont.
Même sur le secondaire, finalement.
Sur le secondaire, oui, mais bon.
Mais si on voulait aller au bout du truc.
Oui, si on veut aller au bout du truc, le secondaire, la question peut se poser. C'est vrai que le principal, en termes de besoin, parce que là aussi, c'est toujours la même
chose. Pas besoin d'avoir deux maisons.
Le besoin immédiat, c'est d'avoir un toit. Hein. Bon. Après, avoir une maison secondaire. Pourquoi pas? Mais c'est plutôt un bien ostentatoire, c'est plutôt autour de ça et du montant de ces.
C'était le moment gauchiste, en fait.
Voilà, non, mais bon. Mais donc nous, voilà.
Mais Didier, il a une résidence secondaire qui ne veut pas.
Ce qu'on dit globalement, c'est sur le patrimoine domestique. Finalement, il n'y a pas vraiment de question, il n'y a pas raison de s'attaquer à un patrimoine domestique lorsqu'on a dit, je viens de le dire tout à l'heure, qu'il est composé en grande partie par le fait que les Français sont propriétaires de leur résidence principale. Donc, la question ne se pose pas. Il se pose un peu plus sur le patrimoine professionnel, où là, c'est vrai que, bon, on peut s'interroger sur le fait d'accumuler, finalement, de manière tout à fait exponentielle, des patrimoines, des usines, bon.
Ce qui est le cas d'une minorité quand même.
Ce qui est là aussi le cas d'une minorité.
La majorité, ça va être les artisans.
Voilà, c'est ouais, évidemment pas, on va pas dire le boucher du coin ou le boulanger du coin, on va socialiser sa boulangerie
local,
ou sa boucherie. Évidemment non, c'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est les très gros patrimoines, les propriétaires de très grosses entreprises. On a eu des cas dernièrement dans l'actualité qui ont montré évidemment que il y avait là vraiment matière à réfléchir sur le plafonnement de ces revenus. Et puis il y a les patrimoines de rapport. Et là, la question est tout à fait évidente. Là.
Légitime.
Quelle légitimité y a-t-il à ce que, en gros, certains disposent d'un patrimoine tout à fait important dans les banques. Ce patrimoine, il travaille tout seul, on sait bien, comme dirait, on l'a souvent dit, on s'enrichit plus en dormant qu'en travaillant. Et alors là, il y a une vraie légitimité de plafonner les revenus du patrimoine lorsque ce sont des patrimoines qu'on appelle de rapport.
Voilà. Mais d'ailleurs, ça fait écho à ce que tu disais en introduction, parce qu'on parlait de taxation américaine entre les années 45 et 70, mais finalement ce patrimoine de rapport, il est tout récent, enfin il date des années.
Absolument, c'est la finance, tout à fait. Tu as raison de noter que ce patrimoine financier, finalement, puisque c'est de ça dont on parle.
Il n'existait pas dans les années 50.
Voilà, il n'existait absolument pas dans les années 60, jusqu'aux années 70, 80, enfin tout ça, c'est des choses qui sont très nouvelles. Et le fait qu'on puisse s'enrichir aujourd'hui en plaçant son argent dans les banques, et c'est vrai socialement particulièrement scandaleux, et c'est en particulier sur ce patrimoine qu'on propose de taxer.
Alors, j'avais une petite question. Enfin, avant, si jamais vous voulez nous appeler, vous pouvez au 01 40 05 06 10. C'est pour notamment Carlos Ghosn, s'il nous écoute, il peut nous appeler à ce numéro-là. Donc 01 40 05
peut-être
06
peut-être qu'avec le décalage horaire, je ne sais pas. Ça...
Non, mais voilà, ma question, c'était sur le patrimoine de rapport, donc qui est essentiellement financier. Mais est-ce qu'on ne peut pas retourner une critique qui pourrait être certains investissent dans l'économie, alors ça leur apporte une rente. Mais est-ce que ce genre de limiter le patrimoine ne va pas limiter les investissements ?
Non, justement, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une réalité aujourd'hui de ce qu'on appelle le capitalisme financiarisé. C'est qu'aujourd'hui, et c'est bien ce qu'on reproche justement, d'ailleurs, y compris des économistes qui n'ont rien d'économistes hétérodoxes, disent qu'aujourd'hui, c'est une des questions principales qui est posée au capitalisme. C'est qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on s'enrichit plus en spéculant sur le marché international sur le marché financier international, sur le marché de la monnaie, sur le marché les bitcoins par exemple, c'est un exemple tout à fait contemporain. On s'enrichit plus en spéculant sur les marchés financiers qu'en investissant dans l'économie réelle. Et ça aussi, c'est une manière de cette proposition de taxer très fortement les patrimoines de rapport. C'est une manière aussi quelque part de faire se réorienter l'économie, les fortunes, et en tous les cas l'économie financière vers l'économie réelle. Donc c'est exactement le contraire. Mmh. L'argument ne porte pas.
D'accord.
C'est justement parce que en finançant ces patrimoines de rapport, on amènera à ce qui est un investissement beaucoup plus important dans l'économie réelle, ce qu'on appelle l'économie réelle, en gros l'économie qui produit des biens, quoi.
Des biens, et souvent local en plus.
Par ailleurs, des biens qui peuvent être dans l'économie locale, effectivement.
Alors, donc pour résumer, vous souhaitez, pour aller vers une société plus juste, plafonner les revenus et les patrimoines. Donc ça, c'est aujourd'hui assez radical dans le sens politique, c'est-à-dire que il y a peu de partis qui semblent aujourd'hui pouvoir porter ce discours. Donc comment on fait aujourd'hui pour pouvoir justement aller jusqu'à plafonner ses revenus et ses patrimoines ?
Si vous voulez...
Sans passer par une dictature.
Ouais. Non, non, mais l'idée, c'est pas l'idée pour nous. Volontairement, on s'est arrêté là. Mmh. Volontairement, on n'a pas été dans cet ouvrage jusqu'à dire comment on fait concrètement pour plafonner les revenus des patrimoines. On a donné une méthode pour mesurer ce que serait et à quel niveau se situerait ce plafonnement, particulièrement sur les revenus, un peu moins sur les patrimoines, mais néanmoins, on pose la question. On n'en a pas discuté, mais la question de l'héritage est évidente, là, aujourd'hui. Mmh. Du point de vue des patrimoines, qu'est-ce qu'on fait de l'héritage ? Est-ce qu'il est légitime, aujourd'hui, de considérer que quelqu'un puisse naître avec, déjà, comme on dit un peu simplement, avec une cuillère en argent dans la bouche ? Mmh. Est-ce que c'est socialement légitime ? On peut s'interroger là-dessus. Mmh. Et on voit bien que cette question, elle est de plus en plus discutée. Il y a des auteurs aujourd'hui qui, une fois de plus, commencent à poser la question de l'héritage. Est-ce que c'est légitime que l'intégralité de l'héritage passe aux successions ? Mais alors, sur la faisabilité politique de cette affaire, évidemment, je dis, pourquoi on n'est pas rentré dedans ? D'abord parce que c'est complexe, évidemment. Aujourd'hui, personne, du point de vue des forces politiques, aujourd'hui, peu de forces reprennent cette proposition. Mais surtout, parce que c'est une question, c'est une posture. On pense que c'est pas, une fois de plus, je le dis, on pense que c'est pas à quelques personnes dans un bureau de décider comment on fait. C'est à la société elle-même de s'interroger sur comment doit-on faire, très concrètement, pour mettre en œuvre une de telles mesures. Nous, ce qu'on propose, c'est un cadre, une méthode, des indications chiffrées sur ce que ça voudrait dire pour montrer que tout ça n'est pas farfelu. Et ensuite, après, c'est à la société de reprendre en main cette proposition et de voir comment on fait concrètement pour l'imposer. Ça veut dire un rapport de force, évidemment. Ça, on se doute bien que ça sera pas d'un revers de manche et que les grandes fortunes vont pas accepter de gaieté de cœur de se voir imposer comme ça ou de voir leurs revenus diminuer. Voilà. Évidemment, ça se fera pas. Et ça veut dire un rapport de force sociale, politique, différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Il suffit de rappeler comment l'actuel gouvernement incite les jeunes à s'enrichir. Aujourd'hui, aujourd'hui on a l'impression que la seule manière de vivre et de se projeter dans le futur, c'est s'enrichir. C'est enrichissez-vous.
C'est de monter sa start-up.
Voilà, ouais. C'est de monter sa start-up.
C'est devenir millionnaire selon Macron.
Voilà. On n'en a pas parlé, mais on en parle dans le bouquin. Ouais. C'est l'idée du ruissellement. Si vous êtes riche, eh bien, ça permettra à d'autres de bénéficier des miettes. Ça aussi, on montre que cette affaire-là est totalement illusoire. Donc, on ne traite pas ce sujet dans l'ouvrage. Mais on essaye de planter le décor pour que ça puisse être finalement repris de manière beaucoup plus large. C'est pas qu'on se cache derrière les difficultés, elles sont réelles,
c'est pas notre logique. Oui, c'est peut-être pas la mission non plus.
Voilà, c'est pas l'objectif.
Fondation apolitique.
Absolument. Voilà,
comprends tout à fait. Je vais juste revenir en arrière parce que parce que là on parlait du rôle politique et le rôle citoyen.
Il nous reste
3 minutes. Mais tout à l'heure, tu as évoqué 1 500 euros, 7 000 euros sur le patrimoine. C'est pas possible.
Enfin, quel non, on l'a, patrimoine... en tous les cas, on l'a pas fait. Ça, okay. On l'a pas fait. On n'a pas été jusqu'à chiffrer.
Imaginer un patrimoine maximal.
On l'a pas fait. On a simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une méthode en essayant de définir quels sont les différents types de patrimoine et ceux qui, évidemment, mériteraient. Pour lesquels il mérite d'être réfléchi en termes de plafonnement et ceux pour lesquels la question ne se pose pas. Voilà un petit peu comment on a construit ce livre, mais qu'une fois de plus, et je pense que ça peut être le mot de la fin, il est un manifeste. Donc l'idée, c'est de mettre sur la place publique cette question. À charge, je dirais, à qui veut bien s'y intéresser de reprendre le sujet.
Et qui est disponible sur le site de la maison d'édition, j'imagine.
Et alors, le bouquin peut être acheté, évidemment, sur le site de la maison d'édition, au lien qui libère.
Donc les liens qui libèrent, voilà, ouais.
Qui est une maison d'édition qui a pignon sur rue, voilà, bien sûr.
Et donc, on rappelle le titre de l'ouvrage, notez-le bien. C'est « Vers une société plus juste, manifeste pour un plafonnement des revenus et des patrimoines ». Vous pouvez aussi avoir toutes les informations sur le site de la Fondation Copernic.
Absolument.
Bah, voilà, je pense que c'est la fin de l'émission. Merci Didier d'être venu nous parler de cet ouvrage.
Merci à vous de m'avoir invité.
Avec grand plaisir. Merci Claude qui a assuré la technique. Et donc je vous propose de terminer en chanson. Peut-être juste rappeler que notre prochaine émission aura lieu le 27 mars prochain. On y parlera de pratiques policières. Et voilà, bah je vous souhaite à tous et
alors juste bonne soirée. Oui, on va rappeler quand même que vous pouvez réécouter cette émission si vous en avez loupé un morceau, ce qui est très dommage, mais mardi prochain à 7h30 et vous pourrez aussi la télécharger sur www.mode-d-emploi.net. Et donc on finit sur Neil Young and the Crazy Horse, seulement le début de la chanson puisque ça dure 16 minutes, mais voilà, vous en aurez, vous pourrez réécouter Ramada Inn plus tard également. Au revoir, bonne week-end
soirée
à tous. À toutes.